Escalade.
La Méridienne.
Actualité, reportage, agenda et chronique, c'est dans La Méridienne.
Tous les jours de midi à 13h sur Calade Ma Radio.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade si vous nous rejoignez. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission spéciale. On est en direct aujourd'hui de la salle des fêtes de Corcelles en Beaujolais, juste en face de la mairie, où a lieu la journée intergénérationnelle, journée organisée par l'association intergénérationnelle du Rhône, avec pour thématique cette année la confiance et le partage. La journée a commencé vers 9h ce matin avec un petit café, des viennoiseries. À 10h, on a eu le temps des discours et puis une table ronde, sans table, mais quand même un temps d'échange sur le thème de la confiance. Et puis, il y a eu plusieurs stands, plusieurs ateliers autour de la confiance avec des jeux et plein d'autres choses dans ce genre. On va être en direct jusqu'à 13h. On va essayer d'ici là de rencontrer tous les acteurs de cette journée. On va parler du programme, de ce qui a été fait et organisé. Et avant de retrouver nos premiers invités, eh bien, je vous propose d'écouter un petit peu de musique pour commencer tranquillement. Et on va écouter, un morceau dans le thème. C'est Louis, Mathieu, Joseph et Anne Chédid qui nous chantent « Tu peux compter sur moi ». Vous êtes à l'écoute de Calade dans la Méridienne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Place à la musique.
Si jamais tu cherches un refuge, une place où personne ne te juge, tu trouveras toujours chez moi un endroit qui ressemble à ça. Si jamais tu sens le besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur tes peurs, si tu m'en as gros sur le cœur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Ouais, tu peux compter sur moi. Je n'ai pas de baguette magique, docteur miracle, tout le cirque. Mais si tu pars à la dérive, je serai là quoi qu'il arrive. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ni des promesses à la légère, mais ma déclaration d'ami, peut-être un peu d'amour aussi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Ouais, tu peux compter sur moi. Quelle que soit la raison, ni pourquoi, ni comment, ni pour combien de temps, tu peux compter sur moi.
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 Tu peux compter sur moi. Ouais, tu peux compter sur moi.
Tu peux compter sur moi.
Tu peux compter sur moi.
Si jamais tu cherches un refuge,
tu peux compter sur moi.
Une place où personne ne te juge,
tu peux compter sur moi.
Tu trouveras toujours chez moi.
Tu peux compter sur moi.
Un endroit qui ressemble à ça.
Tu peux compter sur moi.
Si jamais tu sens le besoin,
tu peux compter sur moi.
De parler à quelqu'un,
tu peux compter sur moi.
De mettre des mots sur tes peurs,
tu peux compter sur moi.
Si tu en as gros sur le cœur,
tu peux compter sur moi. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ni des promesses à la légère, mais ma déclaration d'ami, peut-être un peu d'amour aussi.
Tu peux compter sur moi, c'est le morceau qu'on vient d'entendre sur Calade dans notre émission La Méridienne.
Calade, La Méridienne.
Et on est en direct de Corcelles en Beaujolais pour la journée intergénérationnelle du Rhône. Et donc mes premiers invités m'ont rejoint à notre studio. En fait, on est un petit peu leurs invités à eux parce que c'est eux qui nous invitent à venir participer à cette journée. Nous avons d'abord Jean-Claude Tatu qui est le président de l'association intergénérationnelle du Rhône. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à nos micros. Nous avons également Laure Matré de la MFR de Charenté.
Bonjour.
Bonjour. Gaël Fabry du lycée Bel Air. Et puis enfin, Cyprien, élève au lycée Bel Air. Bonjour et merci d'être avec nous. Cyprien, qu'on n'entend pas bien, mais c'est un problème probablement avec le micro. Faut pas hésiter à être bien proche du micro. On va peut-être commencer par parler de cette journée et de l'association qui l'organise, l'association intergénérationnelle du Rhône. Vous la présentez chaque année, mais vous allez le refaire. Jean-Claude, c'est quoi cette association ?
Alors, Association intergénérationnelle du Rhône, AIR, est une association de personnes physiques et d'établissements, établissements scolaires, clubs, maisons de retraite, etc., qui œuvrent ensemble de manière à favoriser le lien entre les personnes et entre les générations.
Ouais. Et donc parmi ces structures, il y a l'AMFR, le lycée Bel Air. Est-ce qu'il y en a d'autres
Alors dans les établissements scolaires, on va trouver aussi le lycée Grande, on va trouver les collèges Boisfranc et Émile Zola.
Donc là, on a la jeunesse.
Donc là, on a la jeunesse. Et puis, du côté des un tout petit peu moins jeunes, on va trouver, par exemple, le club d'automne de Belleville-en-Beaujolais. On va trouver l'hôpital rural de Belleville-Beaujeu. On va trouver un certain nombre de clubs de Romanèche-Torrens, de Blacé, etc. Donc voilà. Et puis, des personnes qui sont ni dans des clubs, ni dans des établissements, mais qui sont bénévoles et intéressées à participer au projet.
Très bien. Et alors, en quoi la MFR, elle est impliquée là-dedans ? C'est quoi la particularité de cet établissement qui fait qu'elle a un lien avec l'intergénérationnel ?
Alors, c'est une école qui propose un cursus dans le service à la personne. CAP Bac Pro, et puis un titre pro animateur en gérontologie. Donc, on est partie prenante déjà à la création de l'association. Et nous, on participe tous les ans à créer des ateliers avec les jeunes de la maison, de la MFR, des élèves de Bel Air qui viennent nous rejoindre et des seniors pour proposer des choses qui seront présentées lors de la journée.
Je crois qu'il va y avoir une danse, j'ai entendu parler de ça. Il va se passer des
ils
choses.
Ils ne le savent pas, c'est une surprise.
mince, j'ai rien. Chut, chut. Motus et bouche cousue. Je me tourne maintenant vers vous, Gaëlle. Le lycée Bel Air, c'est quoi la particularité, même question, qui vous met en lien aussi avec cette question intergénérationnelle ?
Alors, en fait, tout était parti au départ d'un projet, il y a très longtemps, qui faisait partie de ce qu'on appelle la semaine bleue. Et puis, on a pris le relais via la MFR pour poursuivre tous ces projets pour les jeunes. En fait, dans le cadre de leurs études, ils doivent mettre en place des projets éducatifs, citoyens, voilà. Donc on n'a pas de filière comme la MFR qui travaille auprès des structures. Par contre, on a des jeunes très investis dans les projets. Et je pense que Cyprien, qui était déjà là l'année dernière, peut témoigner de... Voilà, ça lui a plu, cet intergénérationnel, et il a re-signé cette année dans le cadre du même projet.
En quoi tu as été impliqué, Cyprien, dans cet aspect intergénérationnel ?
Parce que avant, l'année dernière, on était un stand avec des ateliers pour amuser les personnes âgées qui viennent de plusieurs EHPAD. Et après aussi, on a participé aussi. L'année dernière, il y a eu une danse et on a dansé aussi avec eux.
Ok, donc c'est créer, imaginer des animations à proposer, c'est ça qui t'a plu ? Et cette année, alors, est-ce que tout est secret encore, ou est-ce qu'on peut quand même dire quelques animations qui ont été proposées ?
Non, je crois qu'il n'y a pas de secret.
J'ai fait un impair avec la danse, je ne veux pas en faire d'autres.
Oui, il y a tout un tas d'animations et de stands qui sont proposés par divers partenaires, avec des stands de massage, des stands de photos, des stands liés à la présentation d'animation d'un certain nombre d'activités par des clubs, par le secours populaire, etc. Des stands découvertes, des stands avec un espace un peu plus ludique de marche en aveugle, parce que nous avons comme partenaire ici aussi les chiens guides d'aveugle, donc ça permettait de rebondir, et tout ça en liaison avec le thème dont on va parler après.
Eh bien, parlons-en, c'est la confiance, le thème.
Voilà. Donc, le thème confiance et partage, on est parti sur un constat qui est d'une image un peu stéréotypée que peuvent avoir les anciens sur les jeunes et les jeunes sur les anciens. En résumé, on pourrait dire que, quand même pour les jeunes, les anciens, ce sont ceux qui lèguent une terre en pleine crise climatique, avec des crises politiques, des crises militaires, des crises économiques, enfin, etc.
Comment leur faire confiance ?
Oui, voilà, comment faire confiance à des gens qui vous donnent ça.
Là vous noircissez...
Bien sûr, et à l'inverse, pour les anciens, les jeunes, ce sont quand même des troublions, ce sont des gens qui sont tout le temps sur leur smartphone, qui vivent dans le virtuel, qui...
Ils sont pas sérieux.
Les valeurs travail, en fait, etc. Vraiment, il n'y a rien qui paie pour qu'ils peuvent travailler ensemble. Et pourtant, nous, on en est convaincus. Et on a bien pu le voir ce matin à l'intérieur de la table ronde, qu'il y a tout un espace de vie ensemble, espace qui permet justement de cultiver la confiance et d'avoir plein de choses à partager et évidemment un avenir à construire ensemble.
Et donc, vous, Gaëlle et Laure, quand on vous a donné ce thème de la confiance, sûrement que vous étiez là au moment où il a été choisi, comment est-ce que vous avez pu imaginer des animations en lien ? Et peut-être que Cyprien aussi va pouvoir nous en dire plus, mais comment est-ce qu'on imagine des animations en lien avec la confiance ? Est-ce que c'est facile comme thème à aborder ?
C'était un petit peu compliqué au débat.
Et ouais, parce qu'il y a plein de choses dans la...
S'imaginer de proposer des ateliers... On a eu la chance de travailler avec Miguel Correa au niveau d'un projet artistique qui a été en lien. C'est des projets photographiques, donc avoir confiance pour se faire prendre en photo, confiance en soi, confiance aux autres. Donc les photos sont exposées aujourd'hui et d'autres sont en train d'être prises. C'est un appareil photo, une Afghan box un peu particulière. Et sinon, les élèves animateurs ont réfléchi à des jeux. En l'occurrence, des boîtes mystères, donc faire confiance aux autres en mettant sa main dans une boîte, dans un trou noir. Voilà, ça a l'air de bien marcher. Et puis, un stand en lien avec le massage, c'est-à-dire qu'on propose aux jeunes de pouvoir masser avec des balles de tennis.
Il faut faire confiance pour se faire masser.
C'est super agréable.
Avec des balles de tennis ?
Oui.
Ok.
Faudra venir.
Eh bien oui, mais j'ai pas essayé.
Faut tester, vraiment.
Très bien. Et du côté du lycée Bel Air, il y a des animations aussi qui ont été créées ?
Tout à fait. Les jeunes se sont partagés. Ils ont mis en place un parcours à l'aveugle où ils se laissent guider sur tout un trajet. Ils masquent les yeux des personnes. Et pour celles qui ont plus de mal à faire confiance, ils leur prêtent même un coude pour pouvoir avancer tout au long du parcours. Les filles, elles ont mis en place plutôt un atelier des senteurs où il ne faut pas avoir peur d'aller sentir ce que c'est pour pouvoir retrouver. Et puis, ils ont aussi voulu mettre en place quelque chose qui va rester avec des mots ou des phrases en lien avec la journée.
D'accord.
Donc, toute une fresque frise, les gens ont le droit d'écrire et puis c'est collé ou d'un endroit qu'ils le souhaitent.
Ces animations, c'est l'occasion de créer du lien, parce que c'est tout le but de cette journée, créer du lien entre les personnes et d'être prétexte à interagir entre les jeunes et les moins jeunes générations.
Eh ben oui, la journée intergénérationnelle, c'est vraiment compliqué à dire ce mot.
C'est un
c'est terrible. Donc cette journée permet évidemment d'avoir un point d'orgue de tout un tas d'activités qui sont menées tout au long de l'année. Et ce qui nous intéresse, c'est bien autant la démarche qui permet d'aboutir à cette journée que la journée elle-même.
Ouais.
Ce qui est chouette aussi, je vois Cyprien qui était là l'année dernière, où il y avait eu des danses mises en place. Et la personne avec qui il a été en binôme, une senior, quand elle est arrivée, elle l'a vue au fond de la salle. Elle a retrouvé sa jeunesse. Elle courait presque vers Cyprien pour le retrouver.
Donc ça crée des liens un peu durables de se voir, revoir et de se recroiser comme ça.
C'est ça. Moi, j'étais Madame Favry, j'étais en lien avec une personne âgée. Et maintenant, je suis toujours avec elle en lien au téléphone. Des fois, on s'appelle de temps en temps, me prend des nouvelles. Et puis là, elle est venue me voir parce que je lui ai dit qu'il y avait la journée intergénérationnelle. Et puis...
Donc, elle est venue participer.
C'est ça.
Et ça, c'est grâce aux animations, en fait, parce qu'il faut briser la glace au début. C'est pas forcément facile d'aller rencontrer quelqu'un. La différence d'âge, ça peut être une vraie barrière. On se dit, on est dans deux mondes différents. Donc, il y a besoin de créer du lien et comme ça, de créer des prétextes. Est-ce que tu serais allé parler, Cyprien, à cette personne si,
Non, je serais pas allé lui parler, mais vu qu'elle est venue me voir, j'allais lui parler. Quoi.
Ouais. Et maintenant, ça crée presque une amitié, on peut le dire. Là, je vois que tout le monde a commencé à passer à table. Le repas de cette journée, c'est aussi un point d'orgue, un point important. C'est un prétexte de se mettre tous autour de la table.
C'est plus qu'un prétexte. Ouais. C'est d'abord un moment convivial.
C'est encore une fois une chose pour créer du lien.
Mais à table, vous avez toutes les deux places. Vous avez une place pour un jeune et deux places d'ancien, une place pour un jeune. Donc voilà, on est dans l'intergénérationnel en action.
Très bien. Et qu'est-ce qu'on mange à midi? On sait le menu?
J'ignore.
Je ne me souviens plus, en fait.
S'il y a des personnes...
a oublié son anti-sèche.
Vous nous avez dit au début, Jean-Claude, qu'il y avait toutes sortes de bénévoles qui étaient membres de l'association et qui pouvaient s'impliquer. S'il y a des personnes qui sont intéressées par les activités de l'association intergénérationnelle du Rhône, est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce qu'on peut...
Alors, bien sûr, on peut nous contacter, on est bienvenus. J'en profite pour dire que la MFR de Charentais nous accueille dans ses locaux, donc c'est le siège de l'association. Donc si Ayer n'est pas facile à trouver, on est sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand même, la maison familiale, elle est facile à trouver. Et donc en appelant la maison familiale, les informations suivront.
En passant par la MFR, tout voilà. Ira bien. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit temps avec nous. Et puis on va continuer l'émission en musique et on va vous laisser aller profiter du repas qui commence.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qu'on écoute sur Khaled? Pourquoi pas Wolfman et Evangeline. Le morceau s'appelle Letting Things Go. À tout de suite. Wolfman et Evangeline sur Khaled. Le morceau s'appelait Letting Things Go. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Méridienne.
Khaled. La Méridienne.
Et on a été rejoint par nos deux invités suivants qui ont participé ce matin à la table ronde. Nous avons la personne qui représente l'association des chiens guides d'aveugles du Lyon et du Centre-Est. Et je m'excuse, j'ai perdu votre prénom. Je vais vous laisser vous présenter.
Régis.
Bonjour. Régis. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Et nous avons également un artiste plasticien. Et j'ai votre prénom. Vous êtes Miguel Carrea.
Correa,
pardon. Et merci de nous avoir rejoints. On peut peut-être d'abord commencer par discuter avec vous, Régis. Vous êtes membre de l'association des chiens guides. C'est quoi cette association?
Alors, l'association Chien Guide d'Aveugle a pour objectif de remettre, former et remettre des chiens guides aux personnes mal et non-voyantes.
Ouais.
Je suis moi-même très très malvoyant, j'ai une maladie dégénérative et j'ai fait une demande à l'association il y a 6 ans et voilà désormais 4 ans et demi que je suis avec Népal, mon chien guide.
Et avant, vous vous déplaciez avec une canne.
Voilà.
C'est canne. Ce que vous nous avez dit ce matin dans votre témoignage.
Tout à fait. Déplacement à la canne blanche, mais qui demande beaucoup, beaucoup de concentration, qui, lors de nos déplacements, nous fait rencontrer tous les obstacles qui sont dans notre environnement. Poteaux, poubelles, barrières, voilà. Et puis des obstacles que l'on connaît parce qu'ils sont régulièrement sur nos trajets. Mais des obstacles qui sont là occasionnellement, voiture sur le trottoir, vélo, trottinette, poubelle. Donc voilà, c'est très très compliqué, ça demande beaucoup beaucoup de concentration.
Ouais.
Et c'est épuisant à tel point que moi je ralentissais mon allure de marche. J'avais perdu de l'assurance et je ne sortais
par extrême nécessité.
Voilà.
Et vous nous avez dit, vous avez fait la demande il y a 6 ans, il y a 4 ans et demi, vous avez eu le chien, ça veut dire que... C'est un petit peu long quand même.
Oui, je vous le confirme.
Pourquoi pourquoi c'est long ?
Alors, l'association donc, vit des dons et des legs pour le financement de l'école. L'école Lyon et Centre-Est est basée à Misérieux, donc le financement des locaux, des salariés. Et actuellement, nous avons 54 chiens, élèves chiens guides en formation. Mais certains n'aboutissent pas, n'obtiennent pas leur certificat d'aptitude au guidage. Mmh. L'école, environ, remet tous les ans 20 chiens guides. Et nous avons actuellement une liste d'attente de demandeurs qui dépasse 50 personnes,
d'accord,
50 demandes en attente. Plus de 50 personnes en attente.
Et il y a une exigence, en fait, envers le chien. On ne donne pas le diplôme juste parce qu'il a fait, il a suivi le parcours. Il faut qu'il réussisse l'examen final.
Oui, ça, c'est un incontournable. Donc, certains chiens ne l'obtiennent pas parce que trop émotifs. Ne font pas des parcours, ne mettent pas suffisamment la personne en sécurité, ne sont pas assez précis dans les déplacements. Mmh. Certains sont recalés parce qu'ils ont des problèmes de santé, ça arrive très jeune.
Ouais.
Donc problèmes de santé qui ne permettraient pas à la personne déficiente visuelle de s'en occuper correctement. Et le certificat, c'est une exigence, oui. C'est véritablement l'éducation a pour objectif de nous mettre en sécurité lors de nos déplacements.
Ouais. Et à côté de vous, donc, il y a Népal.
Népal, mon labrador noir,
ouais,
de 6 ans et demi, donc il est du mois de mai, il aura 7 ans. Et un beau bébé, puisqu'il fait 39 kilos.
Effectivement, ouais, c'est un beau bébé. Et il a son petit, j'ai envie de dire, son uniforme. Il a le baudrier avec écrit chien guide autour de lui. Et,
voilà.
Et c'est une poignée, en fait. Quand vous vous déplacez, vous tenez la poignée ?
Tout à fait. Donc le harnais sur lequel est fixé un guidon. Ou le harnais qui nous permet d'être relié à lui et de percevoir tous ses mouvements, ses changements d'allure, ses arrêts. Il nous stoppe en haut des escaliers, il nous stoppe lors d'une intersection devant les feux piétons. Donc on doit ressentir et vraiment être corps à corps avec lui.
Et c'est essentiellement les déplacements. Est-ce qu'il vous rend service dans d'autres domaines au quotidien ? Je ne sais pas.
Alors, c'est principalement les déplacements.
Ouais.
Mais lors des déplacements, il évite les obstacles.
Ouais.
Il nous trouve les directions. Et avec les commandements, on peut lui demander des directions. Il connaît sa droite, sa gauche, bien sûr, mais on va lui demander de nous trouver l'escalier. Nous, on sait qu'on doit emprunter. Un ami nous a dit, en arrivant, tu auras des escaliers à droite. On va lui demander, cherche les escaliers. Et ainsi de suite. Il va nous trouver des ascenseurs, des escalators. Il fait la différence entre escalier et escalator.
Et donc, vous pouvez vous déplacer même dans des lieux que vous ne connaissez pas.
Tout à fait.
Le chien va pouvoir identifier, trouve la sortie et vous
voilà. Y tout à fait. Cherche la porte. Quand on longe un bâtiment, on utilise, nous, bien souvent les GPS pour nous... nous indiquer le chemin, mais le GPS manque un petit peu de précision. Et quand on sait qu'on est arrivé à destination, on va lui demander de chercher les portes. Ouais. Et là, voilà, il va nous diriger directement sur la porte. Il va même nous indiquer la poignée, de quel côté est la poignée. On aura le bras à tendre et on arrive sur la poignée.
Donc il y a une vraie confiance qui s'établit, et c'est le thème de cette journée entre lui et vous.
Tout à fait. Confiance et partage, le thème de la journée. Et confiance, parce que voilà, maintenant j'ai l'assurance que j'ai plus d'assurance en lui que quand je dois reprendre la canne.
Ouais.
D'ailleurs, pour bon nombre de déficients visuels, c'est un petit peu l'inquiétude que le chien, environ à 10 ans, bah, il va perdre de ses capacités. Il risque d'avoir des problèmes physiques aussi. Donc, qui va faire qu'il sera à la retraite. Et de devoir reprendre la canne, c'est une grosse inquiétude de notre part. Et on à ce moment-là, bah voilà, si on souhaite un nouveau chien, on se réinscrit sur les listes d'attente.
Et il faut réattendre.
Et on attend qu'un chien nous soit... Il faut également... Alors, des fois, l'attente est plus ou moins longue, parce qu'il faut véritablement que le chien colle au maître.
Qu'il y a une relation...
Voilà. Et puis, notre tempérament, notre allure de marche... lui, son allure, parce qu'il faut tenir compte, tous n'ont pas la même allure. Donc un chien rapide va être confié à quelqu'un de sportif, rapide, qui veut faire des déplacements rapides, mais c'est pas le cas de tout le monde. Certains souhaitent se déplacer plus posément, plus tranquillement, avec des chiens qui sont plus posés et qui conviendront bien. Il faut vraiment constituer, c'est difficile. Chaque proposition de chien n'aboutit pas. Le maître chien peut dire « Non, c'est compliqué, ça ne me convient pas tout à fait, est-ce que je peux en essayer un autre ?» Ce sera le cas, l'école est toujours à l'écoute des mâles et non-voyants.
Et donc là, je vois Népal qui s'est posé à côté de vous, qui a l'air tout calme. J'imagine que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de calme aussi.
Oui, oui. Bah alors, on est peut-être des fois calme parce qu'il a un tempérament assez tempétueux.
Il peut être joueur aussi.
Ouais, il est très, très joueur.
Et là, il est au repos.
C'est voilà, ça. D'ailleurs, c'est vrai que les gens, je leur demande... Il faut savoir que voilà, si on excite le chien, bah lui il va répondre en excitation, et comme il fait 40 kilos, voilà, faut plutôt être prudent.
Attention.
Voilà.
Miguel, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes artiste plasticien, et quand on a dit ça, il reste encore beaucoup de choses à dire, parce que ça peut être beaucoup de choses, un artiste plasticien.
Oui, absolument.
C'est quoi votre...
C'est un peu touche à tout. Il y a un lien avec lequel qui réunit tout ça. C'est simplement les choses que je récupère. En fait, j'ai arrêté mon boulot il y a 6 ans maintenant pour me consacrer à ce que j'aime faire. Ça veut dire scier, couper, assembler, souder, tout ça. Et j'ai choisi que de la matière qu'on jette, absolument tout. Des fragments de meubles, des fragments des pièces métalliques. Je peins qu'avec des déchets.
Est-ce que dès le début de votre activité, vous saviez déjà que c'était de l'art ce que vous faites ou
Alors non. Alors artiste, déjà, de dire je suis artiste, c'est quelque chose qui vient pas naturellement.
Ouais.
Après, il faut appeler un chat un chat. Étant donné que je consacre et je consacrerai le reste de ma vie à faire ça, pour le mieux en tout cas, je touche un peu à tout. Et le meilleur terme, c'est artiste plasticien. Qui convient à plein d'activités artistiques, créatrices, culture, peinture, voilà.
Et donc donner une seconde vie à des objets
oubliés.
Absolument,
je travaille sur l'empreinte, moi. Alors, je travaille sur l'empreinte, ça c'est mon premier dada. C'est, en fait, j'imprime des objets sur des toiles. Je prends des objets, des clés, des ciseaux, on a tous des vis, des clous, des choses, des serrures, des charnières dans une boîte.
Qui traînent au fond d'une vieille boîte.
Qui traînent au fond d'une boîte, d'un tiroir. En fait, moi j'ai décidé de peindre ça, de dépeindre ça. C'est une sorte de question pour moi d'empreinte, mais écologique. En fait, je les fais décanter sur des toiles. Et je les fais oxyder, donc je les fais se dissoudre sur des toiles parfois pendant des mois. Et ensuite, j'enlève les objets et je travaille des sortes de radiographies un peu de ces matières-là qui finalement, peut-être que je les remettrai à la déchetterie, mais elles ont marqué une dernière fois un travail, quoi. Et en fait, et souvent, non, je récupère tout et j'accumule des dizaines de morceaux de métal et de plein de choses, en fait, qu'on ne soupçonnerait pas. Et je suis là, par exemple, pour... quelque chose que je disais tout à l'heure lors de la conférence, je disais que j'avais pas choisi de faire de la photo.
Ouais.
C'est exactement ça, en fait. J'ai choisi de, en récupération, construire un appareil photo. Mmh. Et après, j'ai commencé à faire des photos et je me suis dit non mais je peux pas faire ça juste en famille avec mes amis, il faut que je partage ça. Et voilà, et donc du coup je partage la découverte, parce que c'est pour les gens une découverte. Qu'est-ce que le principe de la photographie qu'on oublie un peu avec nos portables où on scrolle?
C'est une autre empreinte que vous prenez. C'est pas
et encore une fois, c'est une empreinte. Donc voilà, ce boulot est concomitant à mon idée principale, qui est de prendre quelque chose dont personne ne veut et d'en faire à nouveau quelque chose de désirable. Voilà, et j'aime bien ce principe de rendre.
Donc là-bas, une dizaine de mètres de nous, il y a une. Si je décris visuellement ce que je vois, c'est une grosse boîte en bois qui est sur un trépied de photographe.
Oui.
Et s'il n'y avait pas ce trépied, ben, ce serait, pour moi qui ne la connais pas et qui ne l'ai jamais vue, une simple boîte en bois.
Oui, c'est une simple boîte en bois qui ressemble peut-être presque à une boîte pour emmener son chat chez le vétérinaire. Et en fait, c'est des bouts de bois. J'ai fait une boîte, alors c'est simple, ce projet-là il est né pendant le confinement. J'ai regardé une archive de l'INA qui est disponible sur internet. C'est une archive qui montre, c'est un journaliste qui s'intéresse à comment dans les pays pauvres, comment ça se fait que les gens se font prendre en photo dans les rues avec cette boîte en bois. Et en fait quand je regarde cette archive, je vois comment ils construisent ça. Et ils construisent ça rien qu'avec des bouts de meubles, de matériaux. Et ils en font des photos. Moi, honnêtement, j'ai construit la boîte pendant les 15 jours. Je ne me doutais pas. Honnêtement, jusqu'au bout, je n'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible, ça ne marchera jamais.
Ouais.
Quand j'ai vu les premières photos, un peu loupées en plus, parce qu'on laisse trop, on expose trop, etc. Et bah, du coup, je me suis dit, non, mais ça, c'est. Enfin, ça, il faut partager ça avec les gens. Et quel est le meilleur endroit, sinon les gens, pour proposer des photos donc. Parce qu'au bout d'un moment on fait le tour de ses amis, de sa famille, et puis au bout d'un moment on s'ennuie quoi.
Ouais.
Donc le proposer comme ça de façon publique, c'est faire découvrir ce que moi j'ai découvert, alors que j'adore la photo noire.
Faire la même expérience de
voilà.
Découvrir.
Donc la boîte est un labo photo,
ouais.
Comme une chambre noire où on aurait nos bacs, mais la boîte est aussi l'appareil photo, voilà, toute la boîte.
Et est-ce que ce serait simple à expliquer comment ça fonctionne ou
C'est très simple. Le principe de la photo, il est simplissime. Et il est connu 1500 ans avant Jésus-Christ, en gros. Pas la photo,
ouais.
Mais le principe photographique est que si on enferme dans une pièce, on enferme une pièce complètement dans le noir.
On enlève toute la lumière.
Faites l'expérience chez vous. Une pièce où il y a juste une fenêtre et qu'on peut facilement calfeutrer pour qu'elle soit noire. Voilà. Et bah, sur la fenêtre, vous allez mettre un carton ou du papier pour que ce soit complètement opaque et noir, vraiment noir total. Vous faites un trou d'aiguille, vraiment un trou d'aiguille tout petit. Ça doit faire entre 0,3 mm, je crois, 0,2, 0,3 mm. Donc un trou d'aiguille un peu au hasard, on peut. Et vous verrez, affiché dans votre KGB que vous avez mis dans le noir, vous verrez l'image inversée de ce qu'on voit par la fenêtre se reproduire en face du mur de votre KGB.
D'accord.
Ce qui fait que du coup, ça y est, là, on a en gros le principe de la photographie, sauf que Niépce, Nicéphore Niépce à Châlons, a été le premier à le fixer sur un support.
Il faut garder l'empreinte.
Alors que 1500 ans avant Jésus-Christ, on savait déjà qu'on s'enfermait dans une pièce dans le noir, on pouvait avoir une image qui s'affiche sur le mur. Mais fixer cette image, c'est la révolution qu'a commencé Nicéphore Niépce. C'est pour ça qu'il est l'inventeur de la photographie.
Ouais, il a finalisé un processus.
Bah, comme l'inventeur d'un trésor. Il n'a pas inventé le trésor, mais on appelle quelqu'un qui découvre un trésor, on l'appelle l'inventeur du trésor. Voilà, Niépce, c'est pareil. Et donc, je fais découvrir ça aux gens, et de façon simple, parce que c'est là devant eux, c'est visible, c'est palpable, on ouvre la boîte, ils voient la photo, le négatif sortir, voilà.
Et c'est un processus qui prend du temps aussi, à la manière des objets dont vous gardez l'empreinte en les laissant... Ça prend plusieurs mois, là, pour prendre une photo. Moi, quand je prends une photo, ça me prend une demi-seconde.
Bah, là, en gros... Vous avez une photo en main, si j'enchaînais les deux procédés, ça veut dire faire le négatif et réexposer le négatif, parce que je prends en photo à nouveau avec la boîte le négatif pour avoir le positif. En gros, si c'est très rapide, en 8 minutes, vous avez une photo en main, en papier, quoi,
ouais.
10 par 15.
Okay.
Voilà, en 8 minutes. Ça veut dire que de la prise photo jusqu'au moment où la photo, je l'ai réalisée en noir et blanc sur papier, bah 8 minutes environ.
Avec du matériel de récupération.
Alors oui, sauf les bains qui sont des bains chimiques de photos normales avec du papier de photo qu'on trouve encore. C'est ce qui est le plus cher, sinon le reste, voilà, c'est vraiment... c'est de l'artisanat comme au début, en fait, voilà.
Et c'est quoi le lien avec la confiance et quelle animation vous avez proposé dans ce cadre-là?
Alors dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec les MFR et le lycée Bel Air Et l'objectif, c'était des EHPAD aussi. Donc du coup, c'était vraiment un travail sur la confiance intergénérationnelle déjà. Et c'était bluffant parce qu'on était des fois 40 dans la pièce. On avait la chance d'avoir une immense pièce dans laquelle on était 40 entre 12 ans et 80 ans. Et l'objectif, c'était de transmettre cette confiance qu'on a en soi, en s'adonnant pendant 2 minutes, voire 3 minutes, à une pose photographique, à la recherche d'une pose photographique. On a un peu inversé les rôles. On a fait habiller les anciens comme des jeunes et les jeunes comme des anciens. Mmh. On a fait un peu ça sur le projet pour que justement ce lien intergénérationnel, comment les gens se voient et s'apprécient visuellement au niveau de l'image. Et du coup, voilà, c'est une question de confiance, parce que c'est se poser devant un appareil photo juste une seconde, ça va très vite, donc on n'a même pas le temps de prendre confiance en soi.
Ouais.
Mais là, ça dure un peu plus. Il y a une discussion, il y a une compréhension du système. La pause, elle dure entre 3 et 4 secondes. Mm. Et ensuite, ensemble, on développe la photo. Moi, j'explique un peu ce que je fais. Et donc, c'est une question de confiance. Se faire prendre en photo. Et là, il fallait s'adonner et me faire confiance aussi à moi, parce que j'allais sortir une photo pas habituelle.
Ouais.
Déjà noir et blanc, sur papier direct. Voilà, c'est pas pareil que regarder sur un écran.
Quelque chose de
et en faire 10 d'un coup.
Ouais.
Comme on fait souvent, on en fait 10 pour qu'il y en ait une bonne.
C'est ça.
Là, j'ai pas le choix. J'ai 10 personnes et il faut que je fasse à chaque fois. Voilà. Et des fois, il y a des loupés parce que je me loupe, ça arrive. Voilà.
Comment est-ce qu'on peut suivre votre travail? Est-ce que vous communiquez sur
Instagram, j'ai une page, donc Miguel Corey Art, ça finit par A-R-T, donc Art. Miguel Corey Art, et vous trouverez rapidement. Sinon, en tapant pareil mon nom sur YouTube, en ciblant Macon, vous allez trouver quelques liens pour mes expos. Voilà.
Très bien. Et Régis, si on veut contacter, découvrir un petit peu plus du travail de l'association Chien Guide, comment est-ce qu'on peut faire?
Alors, sur notre site internet, sur l'application Association Chien Guide d'Aveugles Lyon et Centre-Est, je précise pour que ça arrive directement à notre école. Et puis, tous les ans, à l'occasion de notre journée porte ouverte, le dernier dimanche de septembre, où nous vous accueillons sur site à l'école de Misérieux.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Très bonne journée.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Calade. La Méridienne.
Allez, on est toujours en direct de la journée intergénérationnelle du Rhône à Corcelles en Beaujolais pour cette journée consacrée à la confiance et au partage. On va recevoir nos derniers invités du jour. On fait une petite pause musicale avant, on écoute The Do avec Trustful Hands sur Calade.
We are sent, telling animals, we are undercover, the criminals, we were meant to make a thing or two, meant to break the laws of gravity to slow, lights out.
The Do sur Calade, c'est le morceau qu'on écoute, il s'appelle Trustful Hands et tout de suite on va retrouver nos nouveaux invités.
Calade, la Méridienne.
Et on est accompagné de deux associations maintenant, j'ai avec moi les membres de Vivre Ensemble en Calade, Cécile Canet et Véronique Paulet, bonjour.
Bonjour.
Et également l'association Outils en Main qui est représentée par Armand Sangouard et Patrick Venet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir à nos micros. Alors oui, vous êtes derrière un micro où quelqu'un parlait pas fort avant, donc il est monté très fort, c'est pour ça que ça vous a surpris. On est en direct à la salle des fêtes de Corcelles en Beaujolais pour cette journée intergénérationnelle. Évidemment, Vivre Ensemble en Calade avait toute sa place pour cette journée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de votre association ?
Alors, oui.
L'association Vivre Ensemble en Calade est une association de cohabitation intergénérationnelle qui existe depuis maintenant 7 ans à Villefranche-sur-Saône. Et je tiens à le dire, nous avons été déjà sur votre antenne en 2017. Et grâce à ce passage que nous avons eu, on a eu notre premier senior et qui a accueilli beaucoup de jeunes depuis. Voilà, donc on met en lien des seniors qui ont une chambre disponible avec des jeunes qui ont besoin de se loger dans un but de lutter contre l'isolement, de créer du lien social, de permettre un partage de vie, d'expérience qui mélange les deux générations. Mmh.
Et donc concrètement, je suis un jeune, alors moi je ne le suis plus, mais imaginons, je suis un jeune j'ai besoin de trouver un logement pour une période... je sais pas, de 6 mois dans le Beaujolais, comment est-ce que je procède ?
Alors vous nous contactez, on va d'abord vous recevoir en entretien pour vous connaître, éprouver vos motivations et puis surtout comprendre votre besoin en termes de logement, ce que vous souhaitez comme cohabitation. Et puis dès qu'on pourra, on vous présentera un senior en vous emmenant chez cette personne pour que vous voyez à la fois la personne et le logement. Et on vous laissera quelques jours pour réfléchir. Enfin, des deux côtés, on laisse un temps de réflexion. Et ensuite, on préparera un contrat. Si les deux parties sont d'accord, on signera un contrat et vous pourrez vous installer.
Et 6 mois, c'est pas trop court pour faire toutes ces démarches ? Est-ce qu'il y a un temps minimum de...
Alors, on estime que pour pas trop perturber les seniors, on va pas faire un contrat pour juste une semaine ou deux. Mais à partir de 2-3 mois, ça devient acceptable. Okay. Et 6 mois, c'est très bien, ou alors une année scolaire. Ouais. Et il y a même des seniors qui accueillent parfois un jeune pendant une année scolaire, et puis ça se passe tellement bien qu'ils le gardent la deuxième année chez eux.
Ok. Et ça crée du coup des relations de confiance, là, vous venez de le dire. Ça se passe tellement bien que ça continue sur une année supplémentaire. Est-ce que des fois, il y a des roulements, des binômes qui changent d'une année à l'autre, je crois savoir qu'il y a un senior qui en est à son troisième, quatrième jeune.
Notre premier senior, justement, il a accueilli déjà au moins 7 jeunes.
Ouais.
Voilà, des années successives.
D'accord, mais ça doit être dur la séparation à la fin après avoir passé un an avec la
même. C'est vrai qu'il crée du lien et après, parfois, il continue à se donner des nouvelles, à s'envoyer des petits mots. Donc c'est beau, ouais. Ça crée une amitié.
Et alors, pour le jeune, l'intérêt, il est pratique ? On a besoin d'un logement pas cher, j'imagine. Pour le senior, c'est quoi l'intérêt ?
Pour le senior, c'est une présence rassurante. C'est de vivre des temps conviviaux, de permettre... par exemple, aujourd'hui, là, on a amené avec nous 4 seniors. Donc c'est aussi leur permettre de vivre des choses un peu différentes de tous les jours. C'est s'intéresser à une autre génération. C'est... avoir une aide en informatique. Souvent, les seniors, ils ne savent pas trop comment envoyer sur WhatsApp des photos à leurs enfants, petits-enfants.
Ouais.
Donc c'est lors de nos entretiens qu'on essaye de mieux connaître le senior en lui demandant ce dont il a besoin. Et après, le jeune, on voit si c'est ça qu'il peut donner au senior. Voilà. C'est un peu un matching de profil. Mmh. Mais chaque génération, il trouve son compte. Parce qu'il y a, et chez le jeune et chez le senior, déjà un désir de vouloir... vivre ensemble. Tous les jeunes ne sont pas prêts à vivre en cohabitation intergénérationnelle et tous les seniors n'ont pas forcément envie d'avoir un jeune chez eux. Il n'y a pas de forcing, c'est vraiment parce qu'il y a un désir.
On ne s'adresse pas à vous par hasard ?
Non. Alors parfois, si c'est le cas, on se rend compte dans la discussion qu'ils ne sont pas adaptés. Cécile parlait d'éprouver les motivations, c'est vraiment ça. Un jeune qui voudrait tous les soirs sortir voir ses potes ou inviter sa copine tous les soirs à dormir, ça ne va pas aller parce que le lien ne va pas se créer correctement. Ouais. Voilà.
Très bien.
L'importance de passer par une association, ça permet d'éprouver les motivations et de rassurer dans un vrai cadre.
Et donc aujourd'hui, vous êtes venu parler de votre association, vous aviez un stand, donc on pouvait vous rencontrer facilement. En dehors de cette journée, comment est-ce qu'on peut vous rencontrer et vous contacter ?
Par les réseaux sociaux, par notre site internet, par notre numéro de téléphone, notre bureau qui se trouve Esplanade Paul Bert à Villefranche. Et puis parfois c'est du bouche-à-oreille, c'est telle personne qui vit déjà ça quelque part et qui en parle à des amis qui habitent Villefranche et qui se disent pourquoi pas moi et qui cherchent sur internet. Voilà, on est référencé sur quelques sites internet des mairies par exemple, dans l'onglet logement ou dans l'onglet senior.
Vivre ensemble en Calade. On vous retrouve facilement si on tape ça sur internet.
C'est ça.
Je me tourne maintenant vers vous, Armand et Patrick, de l'association L'Outil en Main. Et j'ai appris ce matin, vous avez participé à l'animation de la table ronde, que c'était une association nationale, en fait, c'est ça ?
Alors, tout à fait. L'Outil en Main, c'est une association nationale qui comporte environ 250 ateliers en France et qui est en train de développer d'autres ateliers à l'étranger, notamment en Pologne, dans le Maghreb et puis sur la Suisse.
Et c'est quoi le principe de cette association ?
Alors, l'association est composée de bénévoles.
Ouais.
Souvent, ben, des retraités, pratiquement tout le temps des retraités, qui ont un métier manuel, qui connaissent un métier matériel, ou de vrais bricoleurs, des passionnés. Et on diffuse notre savoir auprès des enfants à partir de 9 ans.
Apprendre à bricoler ?
À bricoler ou à découvrir un métier.
Un vrai métier, d'accord.
Un vrai métier.
C'est pas juste Moi, j'imaginais apprendre le bricolage du quotidien où quand on quitte l'appartement ou la maison des parents à 18 ans et qu'il faut utiliser une perceuse, on est tout perdu si on l'a jamais fait.
Non, pas du tout. En fait, on est là et on initie les enfants au métier manuel.
Et vous aviez fait quoi comme métier, par exemple, qu'on ait un petit peu une idée ?
Alors moi, j'étais métallier. J'ai très peu pratiqué, mais je suis un bon bricoleur et j'adore transmettre.
Et vous, Patrick ?
Ben moi, je suis maçon de métier.
D'accord.
Et pareil, j'aime transmettre. Donc là, je leur fais voir monter des murs, faire des enduits.
Ok.
Et je m'occupe aussi un petit peu de la partie mosaïque, puisque pour le moment, nous n'avons pas de carreleur.
Et donc ça peut être professionnalisant en fait de passer par... ça peut être un premier pas vers un vrai métier
Alors, tout à fait, oui. Les enfants ont besoin de prendre confiance en eux et de connaître un petit peu ce qui pourrait leur plaire. Donc effectivement, on a des enfants qui viennent découvrir les métiers manuels et qui, par après, font leur choix, puisqu'ils prennent confiance en eux.
Et c'est des enfants à partir de quel âge ?
À partir de 9 ans.
D'accord, très jeunes.
Oui. Très jeunes, mais qui sont très motivés, pour beaucoup, et qui aiment découvrir.
N'hésitez pas à rapprocher le micro de vous, parce
voilà.
On vous entend un petit peu de loin.
Donc, qui aiment découvrir, et comme on leur fait découvrir chaque métier par trois stages à chaque fois.
D'accord.
Donc, ils passent par chaque poste trois fois, trois semaines de suite.
Et est-ce qu'ils repartent parce qu'il faut les motiver, les jeunes, les enfants à cet âge-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui leur donne envie. Est-ce qu'ils peuvent repartir avec une création ? Alors avec un mur, j'imagine que c'est compliqué.
Alors tout à fait, avec un mur, c'est compliqué. Avec la métallerie, c'est plus faisable. Avec la menuiserie, c'est faisable. La sellerie aussi, tout ce qui est cuir. L'électricité aussi, ils arrivent à partir avec des petites lampes de chevet.
Ok.
Voilà, fabriquées... par eux, donc
la fierté qu'il doit y avoir à la maison de poser sa lampe de chevet sur la table basse, ouais. Sur la table de chevet.
Certains ont fait des arbres de Noël qui sont en bois, tout en bois, ils sont repartis avec
leur création à eux. Comment est-ce qu'on vous contacte et où est-ce que vous vous trouvez déjà dans vos locaux, où est-ce qu'ils se situent ?
Alors nos locaux se situent à Guérin. Et tout de suite entre le rond-point de la Grenouille et le rond-point qui est avant le pont de Belleville.
Très bien. Et c'est des mercredis après-midi, c'est des stages pendant les vacances scolaires. Comment ça se passe et sur quelle période ces ateliers ?
Alors c'est le mercredi après-midi pendant la période scolaire, ouais. De 14 à 16h15. Voilà.
Et bien s'il y a des jeunes manuels qui ont envie de s'essayer à des métiers, de découvrir, c'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience particulière.
Tout à fait. Et donc les enfants ne sont pas forcément des enfants qui sont en difficulté scolaire, hein, mais des enfants qui ont envie de découvrir.
Ouais,
tout à fait.
L'outil en main, ça s'appelle. Parfait, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous.
Merci.
Merci.
Vous êtes toujours à l'écoute de Calade et c'est la fin de notre émission La Méridienne. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. D'ici quelques secondes, vous retrouvez vos pages d'information quotidiennes, le journal de Radio France Internationale, suivi du journal de Sylvie Rosier. A tout bientôt. Ciao, ciao.
Calade, ma radio.
La Méridienne.